La tribu
du VIP.
What is this?
Une émission en partenariat avec la salle des musiques actuelles de Saint-Nazaire. Les artistes en concert, les groupes locaux et les événements organisés par le VIP.
De la scène au studio, une heure de rencontre, toujours en musique.
Salut, bienvenue dans la tribu du VIP. Le concert de Voyous, initialement prévu le 2 décembre au VIP, est reporté au samedi 18 mai 2024. Malgré tout, nous avons pu le rencontrer et le faire en interview. Nous étions une équipe de choc. Jacques, Zach, Andrea, Sacha, Kazan, Madeleine et moi, Amaury.
Tu verras, c'est ta chance. Les gens viennent ici et tout recommence. Au milieu des bruits de la ville, toi t'arrives toute timide. Perdu dans le décor, le cœur en l'air et les yeux qui dévorent. Toutes les saveurs de la ville qui t'appelaient entre ses lignes. Solide et sans pitié, les passants s'amassaient dans ses allées. S'élançant comme une rivière, pressée de rejoindre son cœur. Tu te lances d'un
Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
Alors, je m'appelle Thibaut, j'ai un projet qui s'appelle Voyous, et je fais de la musique depuis que je suis tout petit. J'ai commencé, après avoir passé mon bac, à faire de la musique avec des groupes de musique, où j'étais musicien pour eux, en 2016, quelque chose comme ça. J'ai arrêté les groupes pour lancer mon projet, Voyous, que je fais aujourd'hui.
Quelle est la première chanson que vous avez composée?
Alors, j'ai commencé à écrire des chansons vraiment très petit, donc... La première chanson que j'ai écrite de toute ma vie, je pourrais même pas te dire c'est quoi. Par contre, pour ce projet-là, pour Voyous, la toute première chanson que j'ai écrite où je me suis dit et que j'ai sortie, c'est une chanson qui s'appelle « Les soirées ». C'est une chanson qui parle du fait de faire la fête tout le temps, continuellement, et que ça revienne tout le temps un peu au même, et d'y perdre beaucoup de choses et de pas y gagner grand-chose. En tout cas, de pas y découvrir grand-chose de nouveau, même si j'adore faire la fête quand même.
Quand avez-vous chanté pour la première fois en public?
Alors la première fois que j'ai chanté en public, ça devait être quand j'étais vraiment tout petit, quand j'avais 6 ans je pense. J'avais un groupe avec un copain, on était tous les deux trompette et guitare, et on jouait de la musique dans la rue, mais vraiment à 6 ans. Et on avait une chanson qui s'appelait Sweet Georgia Brown, qui était un thème de Nouvelle-Orléans, en gros de jazz assez connu, assez standard, qu'on jouait de trompette, guitare. Il y a un moment donné, on avait inventé des paroles un peu débiles dessus, et puis on chantait ça tous les deux dans la rue. Et voilà, donc on était deux petits enfants en train de chanter des trucs bizarres dans la rue, et ça nous a gagné beaucoup d'argent auprès des touristes.
Un petit coup de cœur sur votre carrière?
Un moment qui a été important pour moi, par exemple. C'est très compliqué de répondre à ça, parce qu'il y a plein de moments... Je pense qu'un des trucs qui a été le plus fort, ça a été déjà le fait de signer avec un label, ça a été quelque chose de vraiment important pour moi dans ma carrière solo. Et ça arrive à un moment où je quittais des groupes pour me lancer en solo avec mon projet, et ça a été un grand saut dans le vide, et c'était très compliqué même financièrement. Et du coup, le fait de signer avec un label, qui est en plus un label que j'adorais et qui avait beaucoup d'albums que j'écoutais, étaient sortis sur ce label. Donc ça a été un grand moment pour moi, de me dire « Ok, c'est bon, je vais pouvoir faire de la musique pendant quelques années et tourner. »
Moi, il y a le morceau « L'hiver » que j'aime bien la mélodie, tout ça. C'est dur à expliquer, parce que je trouve qu'elle fait un peu s'évader, en fait. J'ai l'impression d'être dehors dans la nature, je sais pas. Ça me fait ressentir ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces paroles, en fait? Parce que je comprends pas trop les paroles, au final.
Les paroles de cette chanson, elles parlent de quelqu'un qui va vraiment pas bien, qui a tendance à se renfermer sur lui, parce qu'elle a du mal à affronter des choses de la vie, a du mal à sortir, et elle se renferme, et elle va tellement mal qu'elle n'arrive même plus à voir ce qu'il y a de positif dehors, et elle se renferme sur elle vachement. Et c'est vraiment une espèce de... À la fois, j'essaie dans la chanson de rappeler à cette personne tous ces souvenirs heureux qui font que, en fait, c'est bien d'être dehors, et ça fait du bien de sortir, de voir du monde, de profiter des choses de la vie, tout en essayant de rester le plus tendre possible avec la personne, bien sûr. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de faire sortir cette personne à nouveau. Et voilà. En soi, ça parle de gens qui ont des problèmes de dépression et de problèmes d'angoisse, qui ont cette espèce de sentiment que plus rien de bien ne peut leur arriver, et surtout que plus rien de bien n'existe dehors pour eux, ou en tout cas que c'est pas pour eux et qu'ils y arriveront jamais. Et voilà, c'est une chanson pour dire après tout ce qui se passe de mal, et ben il y a des belles choses aussi qui se passent, quoi.
Était-ce l'hiver qui coulait de ses yeux? Ce salaud d'hiver, il éteignait le feu qui courait hier encore dans ce corps soudain là figé en bloc de pierre. Tu passais des heures avant entre les marronniers à compter les boutons d'or, à jouer sans arrêt. Quand d'un coup de vent de terre, augure d'hiver, tu t'es recroquevillé en bloc de pierre. Et ce quelque chose dans l'air qui fleurait la fin des beaux jours, ce je ne sais quoi dans l'atmosphère, te faisait mal comme un amour qu'on voit s'éloigner sans rien dire. Et tu restais sans rien dire à fixer le néant comme un aimant. Et c'était pas fait pour aller mieux. Toi t'étais pas encore amoureuse, mais déjà l'air égaré. Tu regardais passer les heures, assise au fond du canapé, rideau tiré, que rien ne t'atteigne, pas même les jours heureux. C'est vrai que la mer est froide et silencieuse, que rien ne rayonne plus sous ton ciel pluvieux. Mais dans les chaumières, quand la nuit tombe et que s'allument les cheminées, les cœurs s'éclairent. On passait des heures ensemble à s'amuser de peu, à crier à ta fenêtre de prendre part à nos jeux. Mais maintenant que la pire des peurs t'a prise de court, comment te dire que chaque jour qui passe est une aubaine à qui le veut. Mais c'était pas des journées joyeuses, mais c'était pas fait pour aller mieux. Mais t'étais pas encore amoureuse, mais déjà l'air égaré. Tu regardais passer les heures, assise au fond du canapé, rideau retiré, que rien ne t'atteigne, pas même. Quelque chose dans l'air qui fleurait la fin des beaux jours, ce je ne sais quoi dans l'atmosphère, te faisait mal comme un amour qu'on voit s'éloigner sans rien dire. Et tu restais sans rien dire à fixer le néant comme un aimant. Et ça viendra les journées joyeuses, on fera tout pour t'y amener. Toi tu tomberas enfin amoureuse, t'en as déjà l'air égaré. Et tu verras plus passer les heures à t'évader vent dans le dos, cheveux lâchés, que rien ne t'atteigne, pas même les jours plus vieux.
Il y a une autre musique que j'aime bien, on reste sur le thème hivernal, c'est Il neige, que j'ai découvert grâce à la musique au collège. Comment vous avez venu l'inspiration sur cette musique? Et c'est une musique que j'aime bien parce que c'est parler de choses qui ne sont pas forcément évoquées.
Donc j'habite à Paris depuis quelques années. Il y a 4 ans peut-être ou 5 ans, je ne sais plus, il s'est mis à neiger d'un coup à Paris et ça a recouvert complètement toute la ville. Je pense que ce n'était pas qu'à Paris d'ailleurs, ici aussi j'imagine. Et ça a complètement transformé la face de la ville. Paris l'hiver ça peut être vraiment dur, les gens ne sont pas très agréables, il fait froid, on a tendance à vachement baisser le nez, tout le monde va très très vite dans la rue. Et tu es quand même dans une ville qui est magnifique, il y a des gens qui se saignent toute une année pour acheter des billets pour venir là visiter cette ville. Et toi, tu es au milieu de cette ville et tu n'arrives même pas à en profiter et tu regardes même plus ce qui se passe autour de toi. Et c'est vrai que le fait qu'ils se mettent à neiger, d'un coup, ça transformait complètement la ville. Et ça faisait que tout le monde redevenait un peu des gosses au milieu de cette ville, à regarder partout autour de soi, à lever le nez aussi, parce que d'un coup, il y a la neige qui tombe et puis il y a les toits qui sont tout blancs. Et il y a des informations partout qui amènent ton regard à des endroits et qui te permettent de revoir la ville différemment. Et ça m'avait vachement marqué. Et j'avais juste écrit une phrase du refrain. Et j'avais rangé ça dans un tiroir et en fait j'ai fini cette chanson en très peu de temps, ça m'a pris genre 20 minutes de l'écrire en entier. Je l'ai écrit en avril à la mer alors qu'il faisait méga beau. Mais parce que justement le fait d'être sorti de cette ville et de me rappeler de ce moment-là, ben, ça me permettait aussi d'avoir un sentiment différent sur ce qui s'était passé et puis aussi un peu plus poétique. Et le fait de ne pas être dans l'environnement dont tu parles et ben, te permet parfois de prendre vachement plus de recul et c'est un peu ce qui s'est passé avec cette chanson.
Bah moi, c'est pour revenir sur ce qu'a dit Madeleine. Toujours sur la chanson L'hiver, par rapport au clip, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que moi, j'ai trouvé super drôle le clip.
Alors le clip, ça a été très compliqué de faire un clip pour ce morceau parce que tout de suite, ça évoque des images qui sont assez tristes, les paroles. Donc là, maintenant, tu as un clip, donc tu as des images dessus, mais c'est pas forcément si évident. Et en fait, on a fait pitcher plein de gens. Donc pitcher, c'est-à-dire qu'en gros, on a envoyé le morceau à plein de réalisateurs et réalisatrices différents. Et on leur a demandé d'imaginer un clip et de nous envoyer des images de référence, une histoire, un scénario. Et on a envoyé à vraiment beaucoup, 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 beaucoup de gens. Et il n'y a rien qui nous allait. Vraiment, il y a... Il n'y a rien qui nous semblait être juste et du coup je ne savais pas trop ce qu'on allait faire sur ce clip, c'était un peu compliqué, à un moment je me suis dit que j'allais le réaliser tout seul, enfin on ne savait pas du tout. Et c'était vraiment le morceau avec lequel on arrivait, avec lequel on présentait ce nouvel album, donc c'était super important d'avoir un beau clip avec. Et en fait je suis parti en Irlande avec deux copains, sur une petite île en Irlande, et on était tout en haut d'une montagne qui faisait un 360 sur la mer comme ça, et il y a un de mes copains qui m'a dit mais... Pourquoi tu fais pas un truc où t'es genre énorme dans un décor tout petit? Il m'a juste dit ça. Et de là, l'idée a commencé à mûrir. Et je suis rentré à Paris. Et j'ai écrit des choses. Et après, on a été fouillé dans tous les dossiers des réalisateurs et réalisatrices qu'on avait eus pour le clip. Et on a cherché la personne qui avait une image qui correspondait le mieux à ce qu'aurait pu être l'histoire que j'avais écrite. Et on lui a donné cette histoire et il l'a réalisée. Et après, c'était peut-être pas exactement ta question. Là, je t'ai dit comment on en est arrivé à ça. En gros, c'est ça, c'est une idée qu'on a eue avec un copain en Irlande. Et puis après, tu essaies de t'imaginer comment tu vas dérouler tout ça avec la musique, comment donner du sens, comment essayer de trouver plusieurs choses pour que tu t'ennuies pas. Et voilà.
Pourquoi avoir choisi Voyou comme nom?
Alors, Voyouf, c'était déjà Voyou, c'est juste que ça s'écrivait. En fait, je l'écrivais avec le U romain. Parce que ça faisait un palindrome, mais je trouvais ça beau graphiquement.
On a mal prononcé alors qu'on diffusait et on prononçait mal.
C'est-à-dire?
Ben on disait ouais.
Voyave. Ouais. Mais c'est en fait c'est exactement pour ça que je me suis appelé voyou et pas voyave. C'est que tout le monde faisait la confusion et c'était super dur de faire comprendre aux gens que ça. Puis même voyave, les gens ils disaient vovoy, vovov. Enfin c'était compliqué. Alors que Voyou, tout le monde connaît. En fait, ce nom-là, je l'ai juste choisi parce que je trouvais que graphiquement, c'était joli. Que ça, c'est beau, ça se retient extrêmement facilement. Ça m'évoque des choses, moi, que j'aime bien. Je trouve ça... Enfin, pour moi, un voyou, c'est plus quelqu'un qui fait des petites bêtises, mais sans jamais embêter les gens, quoi. Et puis, ça sonne bien aussi. Ça se retient bien, ça s'écrit bien. C'est marrant à prononcer. Donc voilà, je trouvais que c'était... Assez de raisons pour me dire que c'était un nom qui était cool.
Est-ce que votre source d'inspiration est plutôt basée sur l'émotion ou sur les saisons?
Sur l'émotion ou sur les saisons? C'est une vraie question. Je pense que la vérité, c'est que les émotions et les saisons sont extrêmement liées. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'en hiver, je reçois les choses et je les ressens de manière complètement différente que l'été. Je trouve qu'on n'a pas les mêmes émotions en hiver et en été, par exemple. Quand il fait beau, quand il y a du soleil, qu'on est en t-shirt et en short dehors, à pouvoir être tout le temps dehors. C'est pas les mêmes émotions que quand c'est l'hiver et qu'il fait très très froid et que tu te retrouves contre un feu de cheminée. Ou, tu vois, tu vas chercher tes émotions ailleurs, dans d'autres choses. Tu profites plus de l'intérieur ou de l'extérieur en fonction de la saison. Et donc du coup, moi, mes émotions sont très liées aux... Mes émotions et mes activités, d'ailleurs, sont très très liées aux saisons. Ce qui fait que je trouve qu'il y a certaines histoires et certaines choses. C'est très important toujours pour moi de déterminer les saisons dans lesquelles se passent mes histoires. Parce que je trouve que ça donne beaucoup de sens à des émotions et à des sentiments et à des choses qu'on ressent. Et que souvent, par exemple, l'hiver, c'est une chanson qui utilise la saison de l'hiver pour parler de dépression, parce que la dépression, c'est quelque chose qui peut être très... Et l'enfermement, c'est quelque chose qui peut être très lié justement à l'hiver, parce qu'on a tendance à se renfermer sur soi, à être beaucoup à l'intérieur, à moins être dehors avec des gens. Et voilà.
ville, on s'agace quand on parle de toi. L'hiver a duré trop longtemps et les passantes affairées dans tes rues ne te regardent plus, on ne t'aime plus. On te traverse sans prendre le temps d'admirer tes talents. Quand d'un coup miracle il neige et par la force des choses on lève les yeux au ciel et le sourire aux lèvres, on te regarde renaître sous une pluie de paillettes, les cœurs se soulèvent et dans un grand silence on retombe en enfance. Soudain vêtu d'un voile blanc, ville, tu rayonnes au milieu de la nuit. Ce soir c'est toi la plus jolie, même tes poubelles qu'on ignorait la veille sont devenues des visages qui dégueulent des nuages. Te traverse, ce soir on prend le temps d'admirer tes talents. Car cette nuit miracle, il neige et par la force des choses, on lève les yeux au ciel et le sourire aux lèvres. On te regarde renaître sous une pluie de paillettes. Les cœurs se soulèvent et dans un grand silence on retombe en enfance.
La tribu, c'est toi qui fais ta radio.
Quelle est la chanson que vous avez créée et appréciée le plus ?
Dur, tu veux dire ma chanson préférée de moi-même ? C'est compliqué, je trouve. Alors, pour te répondre, la vérité, c'est que les chansons, c'est un peu comme tes enfants. C'est-à-dire, tu vois, quand imaginons quelqu'un qui a 4 enfants, et ben, ils vont tous être différents. Ils vont tous avoir des qualités et des défauts et tu vas les aimer pour ce qu'ils sont. Et mes chansons, c'est pareil. Je sais qu'il y en a plein qui ont des... J'ai plein de chansons qui ont des défauts, d'autres qui ont des qualités, parfois qui ont les deux à la fois. Mais jamais de la vie, je serais capable de dire quelle chanson est ma préférée. Je pourrais te dire des chansons que j'aime un peu moins, que j'ai faites, mais pas ma chanson préférée. Après, il y a aussi le fait qu'une fois que tu as écrit des chansons, elles t'appartiennent plus, elles appartiennent aux gens qui les écoutent. Tes chansons préférées deviennent liées à des moments, par exemple, c'est-à-dire qu'une chanson où tu vas vivre un moment incroyable sur scène avec une salle entière qui la connaît par cœur et qui la chante, parce que ça a été le single, même si c'est pas ta chanson préférée au départ, tu vas vivre des moments avec des chansons qui sont privilégiées, comme tu vis des moments privilégiés avec certains enfants plus que d'autres. Mais enfin, il y a un truc où tu t'attaches à des moments plus qu'à tes chansons. Par exemple, Il neige, c'est une chanson que les gens chantent beaucoup. J'ai beaucoup reçu de vidéos de gens qui l'a chanté chez eux et puis j'ai aussi beaucoup de gens en concert qui la chantent avec moi. Donc ça crée des moments un peu particuliers.
Je sais que c'est un peu bête comme question, mais combien d'instruments jouez-vous ?
Alors déjà, il n'y a pas de question bête. Et combien d'instruments je joue ? Mon premier instrument, c'est la trompette. Après, j'ai appris le piano, la guitare, la basse, la batterie, la clarinette, le trombone, La flûte traversière, et puis tout un tas de percussions différentes, et peut-être que j'en oublie, et le bugle aussi. Donc je sais pas.
C'est quoi le bugle ?
C'est une sorte de trompette, un peu différente. Donc je joue de plein d'instruments différents, mais après, c'est pas pour ça que je suis le meilleur dans ces instruments. Mais j'ai choisi de maîtriser plein d'instruments pour pouvoir faire de la composition, parce que c'est vachement utile quand tu composes et quand tu arranges. Et du coup, en faisant ça, j'ai sacrifié le fait d'être... d'essayer en tout cas d'être excellent dans un instrument vraiment. J'essaie d'être le meilleur possible dans tous les instruments, mais tu peux jamais être aussi fort en jouant plein d'instruments que quand tu passes ta vie à faire qu'un seul instrument, quoi. Mais voilà, mais j'adore les instruments de musique et j'ai toujours envie d'en apprendre des nouveaux et voilà.
Moi je voulais savoir, qu'est-ce que la musique vous apporte dans votre vie de tous les jours ?
Bah alors, plein de choses. Déjà, mon premier rapport à la musique, c'est que j'en écoute énormément. Donc ça m'accompagne au quotidien pour énormément de choses. Et d'ailleurs, j'ai plus de mal à considérer ce que ça m'apporte d'en faire que d'en écouter. Parce que ma première passion, c'est d'écouter de la musique avant d'en faire. Et puis après, j'en fais vraiment depuis que je suis tout petit. Donc j'ai un rapport très naturel avec ça, comme un langage presque. Et notamment les instruments de musique aussi. Et du coup... je pense que le fait d'écrire des chansons me permet de passer du temps avec beaucoup de sujets avec lesquels j'ai besoin de passer du temps pour moi me soigner aussi. Parce qu'il y a un côté très thérapeutique à la musique, au fait de faire de la musique et au fait d'écrire des paroles et d'écrire tout court d'ailleurs. Donc je pense que ça me soigne beaucoup, ça me permet de comprendre beaucoup de choses autour de moi. Et puis ça me permet aussi de toujours rester dans un rapport assez enfantin aux choses. Et disons que le fait d'écrire des chansons te permet d'avoir un regard différent sur les choses. Et donc, de me construire différemment et parfois un peu en marge de comment on est censé penser ou voir le monde. Et c'est très agréable. Voilà.
Ces dernières années, vous êtes monté en puissance. Et il y a beaucoup de surnoms qui vous ont été donnés dans certains journaux, comme artiste émergent de la pop française, bandit bien élevé de la pop, chanteur à la voix vagabonde, ou même l'antivorien de la chanson française par Radio France. Laquelle vous correspond le plus ?
Franchement, c'est une bonne question. Disons que c'est... Alors, il faut aussi se dire que c'est beaucoup des formules que les journalistes aiment bien employer, mais parce que... Je sais pas comment dire ça, mais... C'est une manière aussi, eux, d'avoir un trait d'esprit en disant ça. Je prends jamais sérieusement quand on dit le bandit... C'est quoi que t'as dit
Bandit bien élevé.
Le bandit bien élevé ou machin, je sais que c'est plus des pour avoir un beau titre et tout ça, je sais pas si... disons que je prends jamais sérieusement ces choses-là, ça m'amuse beaucoup et j'apprécie toujours les traits d'esprit, mais je sais pas, disons que ce qu'est voyou et ce que je suis moi intimement, et ben c'est deux choses très différentes, et du coup j'ai pas l'impression d'être défini non plus personnellement par les manières dont des gens qui ne me connaissent finalement pas... vont décider de m'appeler. Mais par contre, ça me fait toujours plaisir parce que ça veut dire que c'est des gens qui ont écouté, qui ont essayé de mettre des images et des par-dessus ce qu'ils ont entendu, quoi. Donc ça fait toujours très plaisir. Mais de là à m'y reconnaître, j'irai pas jusque-là.
Est-ce que quand vous vous écoutez, vous êtes plutôt du genre à chanter dessus et à danser en vous disant que ça va être un tube, ou plutôt l'inverse ?
Quand je m'écoute, moi ?
Oui.
Alors je ne m'écoute pas. C'est-à-dire que les seules fois où je m'écoute, c'est quand je suis en train de finaliser les morceaux. Et une fois qu'ils sont finis, je les écoute comme ça en disant qu'est-ce que ça manque, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, qu'est-ce que machin. Mais en fait, souvent, je passe énormément de temps avec ma musique quand je suis en train de la faire. Donc c'est déjà beaucoup, beaucoup de temps passé avec ma musique. Mais dans des moments où je suis en train de travailler, donc parfois, quand tu es en train de faire quelque chose et que tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, et ben ça peut me rendre heureux et déclencher des émotions et notamment de la fierté parfois. Une fois que les chansons sont finies, les seules fois où je les réécoute, c'est quand je les interprète sur scène. Donc, franchement, je vais te dire la vérité. La dernière fois que j'ai entendu une de mes chansons, c'était dans un supermarché, je crois. Et la fois d'avant, c'était à une fête où je suis allé. Il y a quelqu'un qui a décidé de mettre ma musique parce qu'il pensait que ça allait me faire plaisir. Et ça m'a vraiment mis très mal à l'aise. Parce que je suis pas très à l'aise avec le... Enfin, en fait, c'est un truc qui est très décroché de moi. Je sais pas comment dire ça, mais... J'ai ma vie à moi dans ce que je fais tous les jours avec mes amis, avec les gens que j'aime et tout ça. Et puis il y a mon travail aussi qui est très très important pour moi, donc le fait de faire des concerts, de faire de la musique, des chansons. Disons que j'aime pas avoir des rappels dans ma vie personnelle de mon travail et tout ça. Donc j'écoute rarement mes disques en dansant, ça m'empêche pas d'être très fier de ce que je fais. Voilà, et d'être très heureux quand je le fais aussi.
Je vais essayer de faire comme Madeleine. Du coup, je te donne des conseils. Alors, je vais essayer de les suivre. L'univers n'est pas le même. Et quoique, moi, quand je vous écoute, enfin, en tout cas, si je pense au bruit de la ville, etc., il y a un côté DAO, mais dans le renouveau de la pop, ça m'a fait du bien, quoi. Le côté frais, parce qu'on avait l'impression que c'était un peu en désuétude, etc. Et je ne sais pas si ça peut être une source d'inspiration ou pas, ou... Et en même temps, je trouve que c'est pas si loin, parce qu'il y a un côté tiroir, c'est-à-dire qu'il y a un côté léger, mais en fait, il y a plein de tiroirs, si on a envie de les ouvrir, bah, c'est pas que de la légèreté, quoi. Donc est-ce que si moi, ça me fait penser à DAO, c'est complètement débile ou...
Bah, en fait, c'est quelqu'un que j'ai écouté très très tard, DAO, et que je connais pas si bien que ça. Mais en fait, je pense que c'est au-delà d'une influence directe de DAO, je pense que lui et moi, et on s'est déjà rencontrés où ce qu'on est et tout ça... Je pense qu'on a écouté beaucoup de disques en commun. Il y a beaucoup de choses que j'ai écoutées, que lui aussi a écoutées. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi de notre vision de la vie et des choses, et dans notre rapport à comment exprimer des choses à travers des chansons, qui est peut-être assez commun. Notamment dans DAO, il a toujours beaucoup de tendresse quand il raconte les choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important pour moi aussi, de rester toujours tendre dans la manière de présenter mes histoires. Et donc je pense qu'il y a plein de similitudes, mais... Elles viennent plus de comment dire, d'influences communes qu'on peut avoir.
Merci.
Merci beaucoup. À vous.
Merci. Et roulez, roulez pourvu. Que jamais rien ne vous arrête. Écroulez, croulez souvent sous l'amour et sous ses dettes. J'ai bien l'âme à vous envier, mais c'est le cœur qui m'arrête. Car bientôt plus fort que vous viendra se joindre à la fête. La roue tourne et si tombe un des deux, l'autre roule ou s'écroule avec eux. Pourtant pas mal parti, tous les deux dans la veine. Te voilà raccourci, tout seul sur ton tandem. Et l'âme en peine à pédaler pour deux. Pourtant pas mal parti, tous les deux dans la plaine. Te voilà raccourci, tout seul sur ton tandem. Et l'âme en peine à traîner un fantôme. Toi tu vas dérailler. Roulez, roulez parfois, s'en vont chercher tes mirettes au-dessus de ton épaule, pourvu qu'elles y trouvent une tête. Ton dos s'ennuie de voir filer des armées de pâquerettes et pleure de n'avoir plus personne à qui faire la causette. L'autre est tombé, ça y est, mais toi tu franchis la pente. Va au bout de la montée et tu verras la descente. Pourtant pas mal parti, tous les deux dans la peine. Te voilà raccourci, tout seul sur ton tandem. Et l'âme en peine à pédaler pour deux. Pourtant pas mal parti, tous les deux dans la plaine. Te voilà raccourci, tout seul sur ton tandem. Et l'âme en peine à traîner un fantôme. Et tu roules en martyr, en chantant à tue-tête que tout va pour le mieux, mais je vois tes gambettes un peu distraites, qui cherchent à qui pouvoir faire du pied. Va donc un peu partout et trouve-toi une athlète pour continuer la route à deux sur ton tandem. C'est mieux quand même, puis deux sur un tandem, c'est mieux pour avancer. Te voilà raccourci, tout seul sur ton tandem. Et l'âme en peine à pédaler pour deux. Pourtant pas mal parti, tous les deux dans la plaine. Te voilà raccourci, tout seul sur ton tandem. Et l'âme en peine à traîner un fantôme. Toi tu vas dérailler.
Il est l'heure d'écouter la tribu.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Maxime, du coup, je suis le régisseur général du VIP à Saint-Nazaire, la scène de musique actuelle, SMAC, qui est une salle de concert, du coup, qui accueille environ 60 concerts par an.
Depuis quand faites-vous ce métier ?
Alors, le poste que j'occupe actuellement, ça va faire 2 ans que je l'occupe. Et sinon, que je travaille dans la technique et lié au spectacle, ça va maintenant faire, ça fait 6 ou 7 ans.
Vous avez quelle formation dans votre métier ?
Alors j'ai commencé par faire un bac scientifique, j'ai enchaîné avec un BTS audiovisuel et à l'issue de ce BTS, je suis parti sur 1 an de licence dans tout ce qui est réseau dédié au spectacle vivant.
Et en quoi ça consiste comme métier ?
C'est vrai que c'est un métier dont on parle pas forcément énormément et on se rend pas forcément compte parce que, alors à la différence de mes collègues qui vont travailler sur le son ou sur la lumière, moi je suis vraiment complètement dans l'ombre et je vais surtout travailler en amont des spectacles. Mon but, ça va être de préparer les spectacles, de faire en sorte d'accueillir au mieux, techniquement, un spectacle dans notre salle. Il y a toujours des petites adaptations à faire. Donc, par exemple, on n'a pas toujours le bon matériel en lumière et il va falloir que je voie avec la compagnie ou le groupe qu'on accueille pour qu'on se mette d'accord sur des équivalences de matériel, ce genre de choses. Je vais aussi faire tout ce qui est planning des journées de travail et je vais m'occuper de l'embauche des techniciens qui vont venir travailler sur tel ou tel concert.
C'est un métier où vous avez beaucoup de responsabilités par rapport à l'équipe.
Alors oui et non, je vais avoir des responsabilités au niveau de l'équipe. Bêtement, je parlais de la planification, de toutes ces choses-là. Donc ça, c'est des choses dont j'ai la responsabilité. S'il y a un problème à ce niveau-là, c'est à moi de trouver des solutions. Après, comme à peu près tout métier à responsabilité, je vais faire appel à des techniciens qui ont plus de compétences que moi dans tel ou tel domaine. Je parlais de son et de lumière. Et du coup, voilà, sur ces parties-là, je délègue la responsabilité aux techniciens intermittents qui vont venir travailler avec nous.
Mais qu'est-ce qui se passe si il ne marche pas quelque chose sur la scène ? Vous faites quoi ?
Oui, on part en courant. Non, on essaye de trouver d'où vient la panne, d'où vient le problème. L'idée, c'est de faire en sorte que le concert ait lieu dans les meilleures conditions possibles. Ça peut arriver qu'on ait du matériel qui tombe en panne au dernier moment. Dans ces cas-là, on essaye de trouver une solution. On voit si on peut trouver d'autres matériels ou on prend la décision de supprimer une partie du matériel. Voilà, donc ça peut être un peu tout et n'importe quoi. L'idée, c'est vraiment de trouver des solutions.
Est-ce que vous avez toujours travaillé au VIP ou dans d'autres salles de concert ?
Alors du coup, non, je n'ai pas toujours travaillé au VIP. Là, comme je disais tout à l'heure, ça fait 2 ans à peu près que je suis arrivé ici. Avant ça, je travaillais au lieu unique. Donc c'est à Nantes, c'est une scène nationale. C'est un autre type de salle, c'est plus axé sur le théâtre et la danse. Et encore avant ça, alors j'ai travaillé quelques années au château des Ducs de Bretagne, qui est le musée de Nantes. Et sinon, encore avant, j'étais intermittent du spectacle. Donc là, je travaillais dans diverses salles de spectacle. J'étais pas rattaché à une salle en particulier. C'est en fonction de ce qu'avaient besoin mes employeurs.
Pouvez-vous nous partager un coup de cœur dans votre métier ?
Ça, c'est une question assez compliquée. Là, tout de suite, là, maintenant, j'ai pas d'idée. Il va falloir que je réfléchisse un petit peu. Ce que tu veux savoir, c'est ce que j'aime dans mon métier ou une anecdote que j'ai vécue et... Donc plutôt une anecdote ?
Oui.
Dans le métier en lui-même, clairement, en fait, chaque concert est un peu une récompense. On parlait, je crois que c'est toi qui me demandais tout à l'heure ce qu'on pouvait faire s'il y avait un problème. Plein de réactions possibles. Toujours est-il que le moment où tout fonctionne, tout se passe bien, tout le monde est accueilli dans les meilleures conditions, tout le monde a le sourire, et surtout au moment où les artistes repartent avec un grand sourire, que le public est super content, ça c'est une sacrée récompense, et je pense que c'est principalement ce qui me motive à faire mon boulot, me dire que voilà, chaque soir on arrive à faire un beau concert pour des personnes qui sont ultra contentes d'être venues, et c'est super cool.
Est-ce que c'est déjà arrivé dans un concert qu'il y ait un énorme problème de matériel et que du coup le concert soit aligné ?
Alors moi non, ça m'est jamais arrivé, pas nécessairement parce que je taffe super bien, mais parce que certainement j'ai eu du bol. Donc ça m'est arrivé d'avoir des petits soucis qui peuvent décaler le début d'un concert, qu'on attaque un petit peu plus tard parce que il y a un micro qui a lâché à la dernière minute, ou ce genre de choses, mais voilà, rien qui a amené l'annulation d'un concert. Après, bien sûr, c'est déjà arrivé à des collègues.
Justement, je voulais rebondir sur l'aspect matériel, c'est que c'est déjà arrivé à des collègues, mais il y a aussi une maintenance en fait, c'est-à-dire que qui empêche, si jamais il y a un souci sur un micro, tout de suite on en a un autre. Est-ce que ça, c'est un peu compliqué de gérer tout ce côté matériel, je trouve pas le mot, tout ce côté inventaire ?
Alors compliqué, non, ça fait partie du boulot. C'est particulier dans le sens où moi-même, alors comme je le disais, je ne suis pas exploitant de ce matériel-là. C'est-à-dire que tout ce qui va être, on parlait de micros, de projecteurs, ce genre de choses, mais même les consoles, les enceintes qu'on utilise, c'est du matériel qui peut tomber en panne. Et moi, sur les soirées de concert, ce n'est pas moi qui vais utiliser ce matériel-là. Donc là, là-dessus, c'est une grosse discussion avec nos intermittents de faire une remontée d'informations de leur part. Là, par exemple, juste avant qu'on monte, j'ai mon régisseur lumière qui vient de me prévenir qu'on avait deux projecteurs qui commençaient à être franchement fatigués. Et qu'il va falloir très certainement remplacer ou au moins envoyer en maintenance d'ici peu.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans ce métier ?
Rien. J'adore tout dans mon métier. Alors non, il y a plein de petits détails, il y a plein de petites choses, rien qui soit énorme, parce que sinon j'aurais changé de métier. Les horaires décalés, c'est quelque chose d'assez compliqué. Pour te faire un ordre d'idée, en général, en semaine, je vais être plutôt sur des horaires de bureau, donc je vais travailler 9h jusqu'à 17h, 18h certains soirs quand il y a des grosses semaines. Et sur des jours comme aujourd'hui, là, je vais plutôt commencer à 10h du mat et finir à 1h du mat. Du coup, c'est des amplitudes qui sont beaucoup plus grandes et qui font que dans ma semaine, bah, je me retrouve à faire des horaires qui varie pas mal. Et donc pour avoir un rythme au niveau de sa vie personnelle, c'est un petit peu compliqué. C'est quelque chose qui peut être compliqué. Après, on rigolait là-dessus, mais oui, il y a certaines personnes dans le public qui ne sont pas forcément simples. Il y a des soirs où le public n'est pas facile. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément agréables.
On vous propose de choisir un son à écouter à la radio. Vous avez quoi comme idée qui vous vient ?
Bah alors, je pense que ça va être un morceau qui m'a suivi depuis longtemps. Ce serait True Story d'Ibrahim Malouf. C'est l'un des premiers concerts sur lesquels j'ai travaillé. Et c'était une découverte. À l'époque, je ne connaissais pas du tout. J'ai rencontré ce monsieur qui ne se souvient pas du tout de moi. Et c'est même pas peut-être. C'est qu'on s'est vraiment croisé très rapidement. Mais ça a été une super rencontre. Ça m'a bien donné envie de continuer dans ce métier-là. C'était un super concert. Et j'ai vraiment gardé ce morceau. Et c'est un morceau que j'utilise régulièrement dans mon travail. Bêtement, c'est le morceau que j'utilise dès que je veux essayer des enceintes, un système. C'est un morceau que je connais très bien parce que je l'ai écouté un nombre de fois incalculable. Et c'est un morceau qui me tient vraiment à cœur.
Merci.
On va écouter ce morceau tout de suite.
Thank you.
Merci beaucoup à Voyou et à Maxime Duvip. C'était vraiment un très bon moment. Je vous rappelle que le concert est reporté au samedi 18 mai 2024. Avec la tribu, on sera présent.